18h10 ici à Paris, l'heure de décryptage avec vous Anne Corpé, bonsoir.
Bonsoir Gilles Moreau et merci, on vous retrouve à 19h pour un nouveau journal.
Décryptage. Anne Corpé.
Un défi colossal. C'est ainsi que la Cour des comptes qualifie ce qui attend la France pour s'adapter au réchauffement climatique. Dans son rapport annuel rendu hier, les magistrats pointent les retards de l'État, des collectivités et des entreprises pour se préparer à une hausse des températures de 4 degrés en 2100. La liste des chantiers est immense. Relocalisation des sites touchés par la montée de la mer, agriculture menacée par la sécheresse, sauvegarde des forêts, rafraîchissement des villes transformées en étuves, isolation des logements, reconversion des stations de sport d'hiver et j'en passe. S'adapter au réchauffement est une nécessité, une urgence, et ce, même si l'on parvient à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour parler de cette question de l'adaptation, nous sommes en studio avec vous, Guillaume Dolk, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert adaptation au changement climatique à l'Institut de l'économie pour le climat, I4CE. Merci d'être avec nous.
Le chantier de l'adaptation, c'est un chantier comparable à celui de la libération. Il faut tout reconstruire, il faut tout repenser. Comment on cultive à plus 4 degrés? Comment on voyage à plus 4 degrés? Comment on fait du sport à plus 4 degrés? Comment on a des activités physiques à plus 4 degrés? Comment on travaille à plus 4 degrés? Comment on s'occupe de nos enfants à plus 4 degrés? Etc. Et tous les sujets sont concernés.
C'était Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, le 19 décembre dernier. Il doit mettre en consultation le mois prochain un troisième plan national d'adaptation au changement climatique. Christophe Béchu a raison quand il dit qu'on doit tout repenser, tous les domaines sont concernés.
Alors c'est vrai qu'en matière d'adaptation, jusqu'à aujourd'hui, on avait souvent tendance à dire que c'était l'autre jambe d'une politique environnementale. Mais en fait, l'adaptation, c'est d'abord repenser toutes les politiques à l'aune du changement climatique. Donc effectivement, ça veut dire revoir nos modèles économiques, revoir la manière dont on construit, dont on rénove nos villes, nos habitations, la manière dont on regarde nos infrastructures. Et tout ça, ça demande effectivement de regarder beaucoup de sujets et ça demande de se plonger en profondeur dans tout un tas d'aspects de l'économie.
Il compare cette situation à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faudrait un gros plan Marshall pour mener cette adaptation.
Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on ne repart pas de rien, c'est-à-dire que les villes, elles ne sont pas détruites. Aujourd'hui, on part avec des infrastructures qui sont là. Par contre, on va s'adosser aujourd'hui à des investissements qui sont déjà prévus dans la rénovation des bâtiments, dans la rénovation des infrastructures. Du coup, ces investissements-là sont déjà prévus. Et aujourd'hui, on aimerait les prendre en compte pour s'en servir pour renforcer les questions d'adaptation. C'est-à-dire, par exemple, au moment où on va rénover un bâtiment, bah tiens, on va se poser la question du climat futur et on va en profiter pour embarquer l'adaptation au moment de cet investissement-là. Donc, en fait, on ne part pas de rien. On a tous ces sujets-là sur la table et aujourd'hui, il suffit simplement de les cranter pour mieux tenir compte de l'adaptation et du climat futur.
Alors, le ministre a l'air tout à fait conscient des enjeux, mais dans son rapport consacré à l'adaptation, la Cour des comptes estime que l'État est trop silencieux, voire absent. Alors comment expliquer ce paradoxe?
Alors disons que pendant longtemps, parler adaptation, c'était un peu l'aveu d'échec des accords de Paris et de la politique d'atténuation. Aujourd'hui, on y revient un peu. On se rend compte qu'en fait, les conséquences du changement climatique sont déjà là. Et en fait, le GIEC nous le dit, on ne peut plus faire de l'atténuation sans faire de l'adaptation. Ces deux politiques-là doivent aller de concert. Et c'est nous vraiment ce qu'on vise aujourd'hui. On dit souvent que l'atténuation, c'est éviter l'ingérable, arriver à des situations qui seraient trop compliquées.
Quand vous dites atténuation, c'est baisse des émissions.
La baisse des émissions de gaz à effet de serre, tout à fait. Donc cette partie-là pour éviter l'ingérable, mais aujourd'hui, on est également obligé de s'occuper de l'adaptation pour gérer l'inévitable, c'est-à-dire ce qui se produit déjà sur nos territoires.
Parce que pour l'instant, ce qu'on fait, c'est en se fondant sur ce qu'on connaît à l'heure actuelle et pas sur les températures qu'on va devoir affronter dans le futur.
Oui, exactement. En fait, c'est la manière dont on a construit nos politiques ces dernières années. Quand on regarde, par exemple, les risques d'inondation, on regarde les événements qui se sont déjà produits sur le territoire, mais on ne se projette pas dans le futur. Quand on construit des bâtiments, on regarde les canicules récentes, mais on ne se projette pas en 2050, en 2100. Alors même qu'un bâtiment, quand on le construit en 2024, aujourd'hui, il sera encore debout en 2080. Donc du coup, il va connaître des températures qui seront bien différentes des températures actuelles. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui de projeter l'ensemble des politiques publiques dans le climat du futur.
Alors, l'enjeu est économique, on y reviendra, mais il est d'abord tout simplement humain. Les vagues de chaleur entraînent des morts en France. Et vous parliez du passé, on se souvient tous de la canicule en France en 2003, il y a déjà plus de 20 ans, qui avait créé un véritable choc dans l'opinion. Mais depuis, le risque sanitaire lié à ces pics de chaleur, il n'est toujours pas maîtrisé.
Alors oui, du coup, effectivement, ce qu'on observe sur le territoire en termes de conséquences, c'est d'abord des conséquences humaines et aussi des conséquences socio-économiques, donc des problématiques sanitaires, des problématiques de sécurité au moment de ces phénomènes-là. Ensuite, il y a quand même des choses qui ont été faites depuis 2003. On voit par exemple qu'on a eu des canicules d'une intensité assez similaire et finalement on voit que le nombre de morts a vraiment réduit. Ce qu'on a vraiment appris à faire ces dernières années, c'est gérer les crises, c'est-à-dire être mieux préparé pour les faire. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est plutôt de mieux anticiper en amont. Du coup, ça passe par, typiquement pour le cas des vagues de chaleur, ça va être des bâtiments qui sont mieux adaptés pour justement éviter de transformer ces problèmes-là ensuite en problématiques sanitaires parce que les gens vont devoir se rendre à l'hôpital, etc., pendant les périodes de forte chaleur.
Et pour s'adapter à ces vagues de chaleur récurrentes, le premier réflexe de beaucoup d'habitants, notamment en ville, c'est de s'équiper d'un climatiseur. Pourquoi ça, c'est une fausse bonne idée?
Alors effectivement, ça, nous, on appelle ça un peu le cas d'école de la maladaptation, c'est-à-dire le moment où on souhaite s'adapter et en fait on aggrave un peu la situation. Ça, c'est pour plusieurs raisons, parce que les climatiseurs sont très consommateurs en énergie. Ils émettent aussi des gaz à effet de serre avec les fluides qui sont à l'intérieur de ces appareils. Et surtout, la problématique majeure, c'est qu'en fait, ils contribuent au réchauffement des villes. Alors même qu'on essaye du coup de les rafraîchir, en fait, en mettant des climatiseurs chez les gens, on va contribuer finalement au problème. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas en mettre partout, notamment dans des zones où on a des personnes vulnérables, comme des personnes âgées, des enfants. On imagine assez mal s'en passer totalement, mais du coup, il va falloir le cibler. Pour les autres, ça tombe bien parce qu'on a beaucoup d'autres solutions, comme l'isolation, comme la végétalisation, qui peuvent permettre de réduire les températures avec des co-bénéfices pour la biodiversité, pour les espaces verts, etc. en ville, qui peuvent être très bénéfiques.
Les espaces verts, la végétalisation, on y est déjà à Paris, par exemple? Ça avance?
Alors aujourd'hui, non. Effectivement, sur ces questions-là, on a également pris du retard. On voit que la quasi-totalité maintenant des grandes agglomérations ont des projets de revégétalisation, de désimperméabilisation, qui va aller dans le sens de l'adaptation, et c'est très bien. Mais en fait, il faut même aller un cran plus loin. Ça ne suffira pas. Quand on parle vraiment d'adaptation, ça va être se poser des questions très fondamentales sur son territoire, de ce que ça veut dire. Est-ce que mon système de santé est résilient? Est-ce que mes infrastructures de transport sont capables d'encaisser des fortes chaleurs, etc.? Et quand on commence à se poser ces questions-là, vraiment, on rentre dans les vraies thématiques d'adaptation.
Alors, selon la Cour des comptes, l'État doit, je cite, faire beaucoup plus d'efforts pour convaincre les Français de faire les bons choix. Vous avez le sentiment que dans notre pays, l'accent a été vraiment trop mis sur les dépenses énergétiques pour limiter les émissions et donc le réchauffement, et ce, au détriment de l'adaptation. Les Français sont pas conscients de cette problématique-là.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en matière de planification et en matière d'investissement qui est prévu par l'État, on a effectivement un très fort curseur qui est poussé vers la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est tant mieux. Nous, on pousse vraiment pour ça et on souhaite même aller un cran plus loin. Mais pour autant, il faut aussi aujourd'hui se poser la question de l'adaptation. Alors, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas forcément coûter beaucoup plus cher que de faire de l'adaptation. C'est souvent faire un peu mieux, c'est-à-dire se poser les questions au moment des projets, simplement se dire est-ce que justement mon projet de rénovation de bâtiment a bien tenu compte du fait que les étés vont être beaucoup plus chauds? Ça, c'est pas forcément plus cher. Et du coup, c'est vraiment important de le faire au bon moment dans les cycles des projets.
Alors justement, le gouvernement a mis en place pour les logements un dispositif, MaPrimeRénov'. Alors c'est pour aider les habitants à isoler leurs habitations, à limiter leurs dépenses énergétiques. Mais si on isole un bâtiment, j'imagine qu'on le protège aussi de la chaleur. Ce dispositif ne fonctionne pas, il n'est pas suffisant.
Alors disons qu'il n'a pas été dimensionné pour l'adaptation. Il a vraiment été dimensionné pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Alors ce qui est bien, c'est que globalement, la plupart des gestes que les gens font pour rénover leur logement, donc pour faire baisser les consommations énergétiques ou les émissions de gaz à effet de serre, vont dans le sens de l'adaptation. C'est-à-dire pour l'isolation, typiquement, généralement, ça va dans le bon sens. C'est pas toujours le cas. Et du coup, il y a un vrai enjeu de se poser la question, projet par projet, de se dire, voilà, si j'isole, est-ce que, en fait, finalement, je vais pas simplement faire monter mon logement en température l'été? Et dans ce cas-là, c'est pas grave. Il faudra simplement se dire, je vais prévoir une ventilation en plus pour justement évacuer cette chaleur en plus l'été. Et là, ça revient à ce que je disais, c'était simplement le petit coup en plus, bien posé au bon moment, qui permettra de s'assurer qu'on fait des rénovations intelligentes vis-à-vis du climat futur.
Le réchauffement climatique a un impact direct en ville, on en parlait, mais aussi à la campagne et notamment sur la production agricole. où ils se mesurent déjà depuis plusieurs années. Écoutez, Émilie et Jean-Benoît Hugues, ce sont des producteurs d'olives. Ils ont été interrogés dans le sud de la France en novembre 2022.
Sur nos arbres, nous avons peu de fruits, peu d'olives. Les cueilleurs vont récolter tous les arbres. Ils vont passer autant de temps sur ces arbres-là, mais ils vont ramener moins d'olives. Ce qui fait que les lots qui arrivent au moulin sont plus petits. Et donc, ce qui fait que le gros moulin va tourner, début de récolte, il tournait presque un jour sur deux. Ce qui est vraiment catastrophe, quoi. Parce que le fruit, c'est ce qui nous fait vivre.
Il va nous manquer 50%.
On va être déficitaire. Il a quand même fait chaud. Je pense qu'il a fait l'équivalent de ce qui se fait au Moyen-Orient, dans le sud de la France, quoi. Voilà, on en est là. On a des rendements qui sont comparables à ce qui se fait au sud de la Méditerranée, qu'on n'était pas habitué.
On n'était pas habitué, disent producteurs, mais il va falloir s'y faire, parce que de fait, les températures vont continuer à augmenter. Alors ça veut dire que concernant l'agriculture, on va devoir par exemple arrêter de cultiver certains fruits, certains légumes, certaines céréales, modifier notre alimentation.
Alors effectivement, il va falloir s'adapter. Ce qu'on voit, c'est que là encore, on a des impacts du changement climatique qui sont déjà là. Quand on regarde, et on a mené une étude récente là-dessus, quand on regarde les aides de crise agricole ces dernières années, on voit qu'elles sont en augmentation constante. Et quand on regarde du coup les impacts du changement climatique, on a toutes les raisons de croire que ces aides de crise vont continuer de monter si on ne fait rien en plus pour l'adaptation. Et en fait, là, ça devient des questions qui sont très fondamentales. C'est donc des questions de souveraineté alimentaire, de modèle agricole. Et en fait, ça pose effectivement des questions de quel est le modèle agricole de demain que l'on souhaite. Comment le rendre plus résilient? Est-ce que ça va être des petites mesures pour ajuster notre modèle? Est-ce qu'on veut une transformation plus profonde, faire évoluer les cultures vers des cultures qui sont plus résilientes? Ça, c'est des questions qui ne sont pas tranchées aujourd'hui, sur lesquelles il faut vraiment se poser la question pour justement éviter de se trouver dans un mode où, en fait, on gère la crise tous les ans avec des aides qui augmentent chaque année.
Oui, parce qu'on l'a vu avec la crise des agriculteurs, la mise en place de politiques plus vertueuses sur le plan environnemental, elle est souvent vécue comme des nouvelles normes, des nouvelles contraintes et perçue comme insupportable par les producteurs. Alors, comment on tranche entre les intérêts à court terme des producteurs et la nécessaire adaptation à long terme?
Alors ça, c'est vrai que du coup, les questions de modèle économique sont toujours des questions qui sont complexes. Nous, ce qu'on voit, c'est que quand même, on a toute une partie de solutions d'adaptation qui peuvent être mises en œuvre et qui sont tout de suite intéressantes parce qu'elles peuvent générer des bénéfices sur le fait qu'on arrive à garantir des rendements qui sont plus importants. Par contre, effectivement, quand on va parler de transformation plus systémique, plus profonde de modèle agricole, là, dans ce cas, on ne peut pas simplement faire reposer ça sur les agriculteurs et il faut que ce soit toute la filière, quasiment de concert, en fait, qui se pose ces questions-là.
Et le fonds vert qui a été créé en 2022, notamment pour aider à la mise en place de cette adaptation, fait actuellement les frais des mesures d'économie annoncées par le gouvernement le mois dernier. Il va être réduit de 430 millions d'euros cette année. C'est une erreur donc de rogner sur ce genre de budget?
Alors nous, effectivement, on trouve que le fonds vert, c'est un très bon outil pour les collectivités. Jusqu'à aujourd'hui, il avait été assez peu utilisé pour les projets d'adaptation, mais il était plutôt utilisé pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre des collectivités. Donc effectivement, nous, on pousse plutôt pour maintenir, voire accroître ce type d'outil parce qu'on pense qu'il a un vrai levier sur les territoires. Et derrière, il faudrait vraiment s'assurer que l'ensemble des projets qu'il finance soient bien des projets qui soient adaptés au climat futur. C'est une vraie question d'efficacité de la dépense. Quand on dépense une fois pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, il ne faut pas qu'on y revienne une seconde fois pour se dire « tiens, il faut l'adapter, il faut vraiment tout faire en même temps ».
En fait, ce que dit le rapport de la Cour des comptes, c'est qu'il y a un empilement de mesures, un manque de cohérence globale. C'est ce que vous constatez également?
Alors effectivement, jusqu'à aujourd'hui, avec l'adaptation, on a eu pas mal de petites mesures à droite, à gauche. Ce qui nous semble important, c'est qu'aujourd'hui, il faut un narratif global qui a commencé à être porté justement par Christophe Béchu avec cette référence unique à 4 degrés à la fin du siècle. Donc ça nous semble très bien. Maintenant, il faut aller encore un cran plus loin. Il faut une planification. Donc ça veut dire des actions planifiées sur plusieurs années. Et surtout, il faut un budget associé. Donc ça peut être un budget en euros, mais c'est aussi un budget avec des personnes qui ont le temps de s'occuper de ces sujets-là. Et ça, c'est tout l'enjeu du futur plan national d'adaptation au changement climatique pour lequel on est très vigilant.
Alors, le réchauffement, ça affecte l'économie, l'agriculture, les villes, mais aussi nos loisirs et notamment le ski. Et c'est un sujet sur lequel se penche le rapport de la Cour des comptes. Les glaciers disparaissent, la neige tombe moins et il va bien falloir pallier l'absence d'or blanc. Mais les élus locaux ne semblent pas toujours conscients du problème, comme le rappelait le ministre Christophe Béchu en décembre dernier.
Quand on entend une partie des commentaires sur l'adaptation en rencontrant des acteurs nationaux ou locaux, on mesure le chemin qui nous sépare. dialogue de sourds il y a quelques mois dans une station de ski avec une députée me demandant pourquoi je voulais la mort des stations de ski. Comme si vous voulez, on allait faire un référendum pour décider du nombre de centimètres qui allait neiger sur des stations de moyenne montagne ou de moyenne altitude.
Ça veut dire que même en première ligne, les élus sont dans une forme de déni.
Disons que oui, effectivement, sur le modèle des stations de ski, on a en une dizaine de décennies, dans les années 60-70, posé un modèle économique qui était extrêmement lucratif, qu'on a pu mettre sur à peu près tous les territoires de montagne. Ce modèle économique-là, il est encore très lucratif, même si on voit que la machine commence à présenter des avaries. Parce que chaque année, on voit que le manteau neigeux est en train de réduire, ça c'est un fait, on le voit depuis quelques décennies et ça va encore s'accroître. Ce modèle-là qui présente des avaries, il n'en présente pas encore suffisamment pour que les gens commencent à se dire « bah tiens, il faudrait que je change de modèle ». Alors qu'en fait, une transition d'un modèle économique comme celui du ski vers un autre modèle qui reste à inventer, c'est quelque chose qui se planifie sur 20, 30, 40 ans. Donc il y a un vrai enjeu à anticiper aujourd'hui, ce qu'effectivement les élus ont encore un peu du mal à faire.
Oui, parce que pour l'instant, ils investissent plutôt dans des canons à neige pour fabriquer le manteau nécessaire au ski. Là aussi, c'est un exemple typique de maladaptation.
Disons que ça dépend comment c'est fait. Si c'est fait en se disant « j'investis dans ce canon à neige pour garantir la neige sur cette piste pendant les 10 ans, parce que ça me permet d'anticiper pour mes projets futurs. Pourquoi pas ? Si derrière, ça veut simplement dire on le fait pour garantir la neige et puis sans se poser les questions de transition derrière, et bien là, effectivement, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on va s'enfermer dans une trajectoire qui nous oblige à continuer de proposer du ski, à continuer de faire du ski, jusqu'à ce que la machine tombe en panne définitivement et que du coup, derrière, on a tout un modèle économique qui va pas pouvoir perdurer.
Et le réchauffement climatique, on le sait, entraîne aussi la fonte des glaces et donc la hausse du niveau de la mer. Ça veut dire que certaines villes côtières vont être directement touchées. Et j'étais surprise en voyant dans le rapport de la Cour des comptes que c'est un phénomène mal identifié. Ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment quels sites vont être les plus concernés, qu'on continue à construire même sur des zones potentiellement menacées sur le littoral.
Ce qui est compliqué avec la hausse du niveau de la mer, c'est qu'une fois qu'on a transcrit des niveaux en centimètres, c'est très difficile de connaître précisément les impacts sur chaque littoral, parce que du coup, ça dépend du type de matériaux, etc., dans lequel est composé. Surtout, les vraies questions d'adaptation au niveau des littoraux, c'est que derrière, c'est des questions de choix. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on choisit ? Est-ce qu'on choisit de se protéger avec des digues ? Là encore, ça peut être une forme de maladaptation si, en fait, derrière ces digues-là, on continue de construire. Ça peut être une forme d'adaptation si on se dit, on se laisse le temps de se replier derrière. Ça peut être aussi donner plus de place à la nature. Et là encore, on a tout un tas de formes d'adaptation avec lesquelles on pourrait composer, pour lesquelles ça demande des discussions, mais du coup, à des niveaux très locaux. Et là encore, du coup, on a un rôle des élus qui sont et des techniciens de collectivité qui sont très importants.
Et vous avez le sentiment qu'il y a quand même une prise de conscience de cette question de l'adaptation ou que c'est plutôt le déni comme l'élu de montagne dont parlait Christophe Béchu?
Alors, sur le volet littoral, j'ai l'impression quand même que globalement, on a passé quand même un cap sur ce sujet-là où justement, on a commencé à se poser les questions de à quoi va ressembler mon trait de côte dans 10, 20, 30, jusqu'à la fin du siècle. Aujourd'hui, les vraies questions qui s'ouvrent, c'est justement cette manière de comment est-ce qu'on va composer avec. Et puis derrière, ça ouvre la question de comment est-ce qu'on va financer éventuellement si on doit délocaliser, détruire des habitations, etc.
Et est-ce que la France est un cas particulier, un mauvais élève, ou est-ce qu'ailleurs en Europe, on est confronté au même problème, à savoir... On s'est plutôt concentré sur la baisse des émissions.
Alors, du coup, il y a eu un rapport de l'Agence européenne de l'environnement qui est sorti en début de semaine, qui constate que globalement, si la France n'est pas prête, c'est aussi le cas de toute l'Europe, et avec des disparités plus ou moins grandes. Mais la France ne fait pas forcément figure de mauvais élève en matière d'adaptation. Mais voilà, on a aujourd'hui des choses qui sont faites. Il faut de toute façon aller plus loin. Ça va se faire du coup au niveau national, mais aussi au niveau européen, parce qu'on a des politiques européennes qui sont concernées par l'adaptation, pour lesquelles il faut qu'on aille encore un cran plus loin.
Merci beaucoup Guillaume Dolk, expert adaptation au changement climatique à l'Institut de l'économie pour le climat. Merci à Claude Battista à la réalisation, à Éléonore Krenik qui m'a aidé à préparer l'émission. Restez avec nous dans un instant, le débat du jour, sauf en Afrique de l'Ouest, où vous avez une demi-heure d'infos en full day.